stop you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. L'équipe technique ce soir au Bel Air est composée de Célia Dufour, Stéphane Touvenin et Philippe Mercher. En public, en effet, comme tous les vendredis soirs, au bar de la Maison de la Radio, en compagnie ce soir de Florence Colombani, Lucille Como et Thierry Chaise, pour parler ensemble de La caméra de Claire, d'Aung San Suu, The Disaster Artist, de James Franco, et La nuit a dévoré le monde, de Dominique Rocher. Boris Pino est là et surveille d'ores et déjà les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires sur les films dont nous allons parler. Et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Tintoret, naissance d'un génie, à voir jusqu'au 1er juillet au musée du Luxembourg à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec la sortie mensuelle d'un nouveau film d'Aung San Suu, dont je plaisante à peine, mais c'est vrai que si on se souvient qu'on a parlé dans cette émission en janvier du précédent film du Sud-Coréen sorti en France, c'était Seul sur la plage la nuit. Celui-ci, dont nous allons parler ce soir, La caméra de Claire, a été tourné en marge du Festival de Cannes 2016. Il a été présenté, projeté hors compétition en 2017 et sort donc sur les écrans. On y retrouve la nouvelle muse du cinéaste, c'est peut-être du passé, on en reparlera, Kim In-ni, et qui va croiser cette fois la route d'Isabelle Huppert, touriste, en visite sur la Côte d'Azur.
Oh, qu'il est beau! Quel beau chien! Tu te reposes, hein? It's beautiful. Hmm?
Yeah, beautiful. Bye.
Bien avec les bandes son de Aung San Suu, c'est qu'elles sont très raccord avec le Bel Air, parce que dans les films d'Aung San Suu, on passe quand même beaucoup de temps à boire, à deviser autour de table. Vous n'êtes pas d'accord, Lucille Gomeau ?
Si, si, mais moins là, justement, moins dans ce film-là.
Enfin, il y a quand même deux grandes scènes de repas, on en parlera sans doute. Florence Colombani, pour commencer, sur ce film qui s'appelle La caméra de Claire. Claire, c'est Isabelle Huppert.
Claire, c'est Isabelle Huppert, et La caméra de Claire, c'est un évident clin d'œil à Éric Rohmer, Au genou de Claire, et il y a quelque chose de très rohmérien dans le film, c'est Rohmer avec l'alcool, c'est un peu ça la petite variation. Donc Aung San Suu, c'est un très beau film, très gracieux, délicat, assez fragile aussi, parce que qui suit donc ce personnage d'Isabelle Huppert qui photographie les gens et change leur vie en les photographiant. On va le découvrir de façon assez poétique et suggérée au cours du film. Et on la voit interagir avec plusieurs personnages, dont cette jeune Coréenne qui s'est fait renvoyer brutalement pour une histoire très raccord avec l'actualité de liaison interdite avec un metteur en scène. Et ce qui se passe entre ces deux femmes est regardé par Aung San Suu avec beaucoup de délicatesse et sans intrusion. Et il y a là une grâce magnifique du cinéaste. Il y a peu de cinéastes qui seraient capables d'accompagner ces personnages-là et cette histoire-là et d'en tirer un film aussi dense, finalement.
Premier regard de Thierry Chaise sur ce film d'Aung San Suu.
Je partage totalement ce point de vue. Moi, j'ai un plaisir déjà. Même c'est assez rare qu'un cinéaste, en effet, qui tourne autant. On est à un ou deux films par an dont on voit quasiment tous les films. Et où on arrive toujours à trouver quelque chose de plus. Alors on est content d'aller en terrain inconnu, je dirais. Le terrain inconnu, c'est en effet, même s'il y en a un peu moins, ces échanges alcoolisés, ces rapports amoureux. Et puis il y a un nouveau terrain de jeu qui est Cannes. Moi, étant au Festival de Cannes, j'ai rarement vu en fait Cannes aussi beau qu'à travers le regard de Aung San Suu. Je trouve que beaucoup de cinéastes...
C'est beaucoup la boca quand même, quand même plus typique.
Oui, mais il y a une manière de le regarder. Que je trouve que souvent, quand les cinéastes étrangers viennent en France, je trouve qu'ils perdent à la fois leur langue et leur cinéma.
On l'a beaucoup vu, oui.
Énormément, y compris de très grands metteurs en scène.
Il y a un livre à faire là-dessus, non ?
Parce que je trouve que c'est commun à beaucoup. Et là, je trouve qu'il renforce, ça renforce au contraire ce cinéma. Ça lui apporte peut-être par moments un peu plus de légèreté. En tous les cas, l'errance à la fois, il y a une errance mélancolique de ce personnage qui vient de se faire virer, et en même temps la joie de la balade quasiment. Ces contrastes fonctionnent totalement. Oui, il y a quelque chose, je trouve, d'une mélancolie douce et joyeuse qui, moi, imprègne le film de bout en bout. Il y a une croyance aussi à la force de l'image, de se dire que c'est celui qui va l'observer, qui voit mieux le monde, peu importe qui il est, mais c'est la manière de le regarder qui dépend plutôt que ce qui se passe. Et la manière de le regarder peut changer les choses. Et je trouve que c'est aussi un bel hommage à la caméra qui peut être caméra au terme américain aussi du genre. C'est the camera pour la manière de filmer Aung San Suu. Et c'est pour ça que j'ai vraiment passé ce film, mais emballé par son charme.
Premier regard cette fois de Lucille Como.
Alors, je vois tout à fait l'intérêt ludique du film, et en fait, il tient aux conditions dans lesquelles, en effet, il a été filmé, puisque filmé en plein Festival de Cannes, dans un Cannes qui n'est pas du tout le Festival de Cannes, oui, apparemment, et avec Isabelle Huppert, dont on imagine qu'elle avait autre chose à faire pendant le Festival de Cannes. Donc ça, c'est très drôle. En dehors de ce côté ludique qui tient à la contrainte, j'avoue que j'ai ressenti... Alors, je ne sais pas si c'est une forme de lassitude, honnêtement, à force de voir des films de Aung San Suu, qui sont quand même des variations sur toujours à peu près les mêmes sujets, avec des combinaisons plus ou moins habile, ou alors si le film est objectivement moins bon, il est très court, il faut le dire, c'est une petite chose, enfin c'est un petit film à mon avis de Aung San Suu. Je trouve que la construction elle est nettement plus simple que dans ses précédents films. Dans le précédent film, en fait, c'était... On les voit pas dans l'ordre en France parce qu'apparemment il a été tourné après. Mais en l'occurrence, dans Seul sur la plage la nuit, la construction était extrêmement travaillée puisque c'était un diptyque et que du coup on ne comprenait pas les rapports entre les deux parties qui ne collaient pas l'une à l'autre. Il y avait un doute fondamental sur l'héroïne dont on ne savait pas si c'était la même personne.
Alors, là, en l'occurrence, qui était le vrai précédent, c'était aussi la même complexité.
Oui, en fait, ça fait quand même quelques films, je dirais une dizaine, où la narration est complètement fragmentée, la question de la temporalité se pose en permanence. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est un film qui se regarde à peu près de bout en bout. Il y a un petit flashback, mais bon, globalement, on sent que la temporalité est celle d'une temporalité classique. Et du coup, je trouve que ça s'accorde assez mal avec, par ailleurs, le côté extrêmement autoréférencé du film, qui, comme d'habitude, pour le coup, ça, c'est le cas, est un film qui suit un réalisateur qui s'appelle presque comme Aung San Suu. Là, en l'occurrence, ce n'est pas son actrice, mais c'est une femme qui travaille avec lui. Donc, le côté extrêmement autoréférencé d'habitude ne me gêne pas entre guillemets parce qu'il est pris dans une forme qui remet tout le temps en question ça, en fait, ce propos-là. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est beaucoup plus figé. J'ai l'impression que c'est un peu un film à formule. Alors j'en ai relevé par exemple il faut être honnête dans la vie pour que le cinéma ne mente pas. Il y a plein de phrases comme ça qui sont un peu assénées, alors que d'habitude, je trouve que, comme vous le disiez Thierry, le propos sur le cinéma est plus fin et disons que le côté un peu didactique est contrebalancé par une forme un petit peu particulière. Là, je me suis pas ennuyée, parce que le film dure 1h10, faut le dire, mais j'ai pas ressenti la même chose que dans les autres films d'Aung San Suu. Encore une fois, peut-être que c'est une forme de lassitude.
Ouais, alors, moi, je dois dire que même un film que je tiens en effet pour mineur d'Aung San Suu, ça reste quand même un bon film par rapport à la production. Non mais il est bon de le rappeler aussi. Pour peu qu'on soit sensible à quand même un art très délicat, vraiment au sens presque de la miniature aussi dans ce film-là. Mais j'avais noté cette même phrase, il faut être honnête dans la vie pour que le cinéma ne mente pas, sauf qu'elle avant, il faut quand même qu'on entende cette phrase qui est « être innocent ne signifie pas forcément être honnête ». Et donc, il y a quand même des liaisons qui se font d'une phrase à une autre tout au long du film. Puis il y a des choses qui sont... des assertions comme 93% des ennuis de ma vie sont dus à l'alcool. C'est quand même une statistique qui ne peut être que signée Aung San Suu. Il y a ce personnage quand même d'Isabelle Huppert qui est extrêmement drôle parce que, dit-elle, c'est la première fois qu'elle vient à Cannes. Donc forcément... Là, c'est même plus autoréférencé parce que tout le monde est quand même au courant que Isabelle Huppert a au moins 4 films à Cannes depuis 27 ans.
Et
c'est
ça.
Puis elle a un look d'inspecteur Clouseau. Enfin, il y a quand même quelque chose sur le burlesque qui est quand même présent ici à travers Isabelle Huppert, me semble-t-il. Florence Colombani.
Oui, moi j'ai vraiment apprécié Isabelle Huppert dans ce film. Il faut dire que ça doit être le troisième film du mois pour Isabelle Huppert. Enfin, elle est à l'affiche d'un nombre de films étonnant.
Oui, mais c'est pas le meilleur.
Je pense qu'on l'a. En tout cas, on la voit très peu comme ça, et que c'est très agréable parce qu'on a l'impression de la redécouvrir comme actrice.
C'est comme chez Serge Bozon. C'est dur à dire. C'est comme chez Serge Bozon quand on l'avait vu dans le Tip Top. C'était
Tip Top.
Tip Top. Elle offre quand même d'autres choses. Et chez Aung San Suu, c'est aussi cela, il me semble.
Oui, c'est d'abord sa dimension de comédienne un peu à l'américaine, de comédie à la Howard Hawks. Enfin, on sent qu'elle a ce plaisir du jeu avec son corps, qu'elle a le sens de la répartie, qu'elle a un goût de l'improvisation. Et puis, je trouve qu'il y a aussi le fait qu'elle se laisse porter. L'absence, c'est pas une absence de scénario, mais la légèreté du scénario fait qu'elle a... Il y a plus de liberté dans ce film, dans la façon dont elle est à l'écran et dans la façon aussi dont le cinéaste la regarde, que d'habitude. Parce que c'est une actrice qui est tellement surregardée qu'elle devient parfois, je trouve, très difficile à voir, même pour le public. Et c'est pas quand même un des moindres mérites de ce film que de la faire un peu redécouvrir.
Oui, parce que c'est un second rôle. On a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, on suit Claire, on suit quand même Kim Min-hee. Enfin, je ne sais pas quel est le nom de son personnage. Et il faut dire aussi, alors... Je ne sais plus si ça forme une trilogie finalement ou une tétralogie parce que c'est le 3 ou donc 4e film d'Aung San Suu avec Kim Min-hee et qui fait que son cinéma aussi regarde les femmes, ce qui était quand même moins le cas avant. Est-ce que ça forme un cycle aussi dans celui-ci? Serait peut-être sur un mode mineur, Lucille Comeau?
Oui, alors justement, ce regard sur les femmes que j'avais très très profondément ressenti et que j'avais apprécié dans les précédents films, je l'ai moins eu parce que je trouve que son propos sur la paresse et la lâcheté des hommes qu'il tient en effet depuis 4-5 films, peut-être depuis sa rencontre avec cette actrice-là, en fait là, il tourne tellement à une forme d'ego trip. Vraiment, je l'ai profondément ressenti pour la première fois dans ce film-là, que du coup, à l'inverse, la question de la condition féminine, si c'est une question, je sais pas, dans son cinéma, elle me paraît moindre. Et j'avoue que j'ai beaucoup vu, et c'est drôle qu'on parle aussi de The Disaster Artist, on va sans doute en reparler après, mais j'ai beaucoup vu un ego trip de cinéaste qui, certes, filme sa propre auto-flagellation, parce que là, vraiment, on en arrive là, c'est-à-dire qu'il faut quand même parler de ce personnage masculin qui n'est plus du tout en nuance, à mon avis, qui est vraiment extrêmement pathétique, qui est dans l'alcool vraiment triste en permanence, qui n'arrive à prendre aucune décision, qui se décharge entièrement sur une autre femme qui est son assistante et avec qui on comprend qu'il a une liaison aussi. Ce personnage m'a un petit peu agacée et je trouve que c'est dommage parce que du coup il affadit un petit peu la complexité des personnages masculins précédents qui certes étaient déjà un peu dans cette veine-là de lâcheté, etc. mais qui avaient une forme de complexité et de quelque chose de touchant.
Celui-là, il est à peine dessiné, très peu présent.
Mais justement, du coup, c'est un...
On est d'accord, du coup, à peine dessiné, au risque de la caricature pour ce coup.
Ça participe au principe de la récréation, je pense aussi. C'est-à-dire que par rapport à ces autres films qui là, pour le coup, la construction est assez impressionnante. Là, je pense qu'il y a la même rigueur, mais on a vraiment l'impression que le film s'est inventé au fil des rencontres et presque du hasard. À mon avis, ce que je dis est entièrement faux, et si on doit tourner en 6 jours, c'est absolument impossible. Mais je trouve qu'il y a cette légèreté-là. Alors, Du coup, peut-être en effet que l'écriture de certains personnages peut en pâtir, qu'ils sont plus dessinés, qu'on laisse plus jouer comme ça les jeux de l'amour et du hasard, je dirais. Mais c'est ce qui m'a charmé aussi. C'est presque une pause, une récréation, voilà, mais une récréation joyeuse.
Lucille ?
Oui, de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry Chesse, parce que ces précédents films étaient particulièrement sombres. Enfin, le dernier était vraiment très dur. Enfin, moi, ça m'avait profondément affecté. La fin est dure. Là, en l'occurrence, on a vraiment l'impression, puis c'est très thématisé dans le film, que c'est une forme de cinéma de réparation. De la même manière qu'Isabelle Huppert prend des photographies et que du coup elle répare un petit peu les êtres qu'elle prend en photographie en leur disant vous allez changer tout doucement après cette photo. Là on a un petit peu l'impression que c'est le rôle du film, donc de ce point de vue il a une fonction dans son cinéma.
Il me semble qu'il y a presque une fonction de mode d'emploi aussi, Florence Gambelli, dans ce film où vraiment c'est explicité, il faut regarder les gens lentement, voire deux fois, et on sait qu'en Aung San Suu, généralement, les événements se répètent ou sont filmés deux fois, ou les scènes sont filmées deux fois. Il y a quelque chose qui serait presque le mode d'emploi pour voir ces autres films, m'a-t-il semblé.
Oui, il y a une sorte de leçon de cinéma ou de condensé de son cinéma, mais en même temps avec le côté récréation dont parlait Lucille Comeau, qui est typique du cinéaste étranger qui filme la France. Enfin, ça, c'est vrai qu'on a vu ça mille fois. Il y a le fait d'être sur un autre territoire et un territoire qui est très touristique, et avec Cannes, on est en plein, en plus dans des couleurs tellement vives et une sorte de joie de vivre du site, quoi, qui est immédiatement visible sur l'écran, que il y a un choc peut-être parfois un peu dur à encaisser entre la sensibilité profondément mélancolique du cinéaste et puis cette espèce de Provence, mais qui n'est qu'un décor de carton-pâte qu'on voit sur l'écran.
Lucille Comeau.
Non, à propos de Cannes, je trouve ça très drôle. Il filme en effet quand même des scènes de restaurant, parce que sinon, je pense que non, ce ne serait pas un film d'Aung San Suu. Et il filme dans un restaurant, on imagine un restaurant chinois tout pourri de la banlieue de Cannes, parce qu'évidemment, il n'y a pas de petits bars, de petits restaurants coréens comme dans ces films. Ça, je trouve ça vraiment extrêmement drôle d'avoir fait ça.
Boris Pinault, quelques commentaires de nos éditrices et auditeurs sur les réseaux sociaux.
Oui, un mot de Laurent sur Twitter. La caméra de Claire est une véritable petite perle. Une magnifique réflexion sur le pouvoir des images et celui des mots. Un instant suspendu dans les rues désertes de Cannes, porté par une Isabelle Huppert, toujours aussi resplendissante, et Sophie Ponce, toujours sur Twitter. Aung San Suu offre un instantané de grâce autour du geste artistique.
Oui, alors je parlais de trilogie ou tétralogie. On a lu cet après-midi, Lucille Comeau, que ce serait fini avec Kim Min-hee. Donc on aura les films de la séparation, vous pensez, dans les prochains films de Aung San Suu. Enfin, il a dû en tourner deux autres depuis cela. Non,
là, il aurait pu appeler celui-là Seul sur une plage le jour, par exemple. Ouais. Ça aurait été parfait comme pour jouer entre tous ces titres. Oui, on aura maintenant les films forcés. Ah ben, si sa vie et son matériau. Donc je ne vois pas comment on ne va pas avoir une autre série de films autour de la séparation. Peut-être en retour à Cannes. Hein.
Où l'alcool coulera à flot.
Ah oui, encore plus.
D'autant plus.
Sans modération.
Bon, pour l'instant, nous parlions de La caméra de Claire, film de Aung San Suu qui est sorti sur les écrans mercredi. Et à suivre dans la dispute. Je fais un signe, mais en fait, si j'avais pas fini de parler, c'est de ma faute. Célia Dufour, pardon, toutes mes excuses. À suivre dans la dispute de Disaster Artist et La nuit a dévoré le monde. On le remet, le petit jingle ? Allez.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
La suite de cette émission consacrée ce soir au cinéma en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Nous vous attendons tous les vendredis soirs. Enfin, il faut déjà que j'annonce que vendredi prochain, par exception, nous ne serons pas là car nous serons au Salon du Livre, Porte de Versailles. Bon, mais dès le vendredi suivant, nous serons à nouveau au Bel Air tous les vendredis soirs. On va parler maintenant du film de James Franco, The Disaster Artist. Tommy Wiseau, puisque c'est de lui qu'on va parler beaucoup, est le réalisateur, scénariste, producteur, acteur, producteur exécutif et monteur du film The Room, sorti en 2003, considéré comme le Citizen Kane des mauvais films. James Franco lui a adapté, interprété, réalisé, je sais pas les autres postes, The Disaster Artist, qui est inspiré du livre de souvenirs écrit par l'acteur principal du film de Wiseau.
Okay, who here can really reveal themselves to the class? Anybody.
I'll go.
Don't talk about me. Not to class. Not to anybody.
Yeah, no, of course.
Show up on time. Try not to fall asleep, everybody.
Am I hearing an accent?
No. What we're doing?
How
old are you?
No, why I'm Greg age.
You're 19? Yeah. I just turned 14.
Wow, happy birthday. This is my movie, and this is my life.
You're not Greg. You and me, we are the same.
Oh yeah, how's that?
We both have this dream.
That we'll be famous.
Yeah, I guess we do.
You have a malevolent presence. You are a perfect villain.
I could see you as Dracula, Frankenstein.
I'm not Frankenstein.
I'm Hero.
Give them job, I give them salary. I'm gonna spend $5 million on this movie, Greg.
Five? Are you kidding me? $5 million?
And they are not grateful. Nobody respects my vision.
Where were you born, Tommy?
Greg, that's not part of the scene.
You want an easier question? Where does the money come from, huh?
Stop! This is on camera.
I know it's on camera, just like you want it.
I do this whole movie for you, Greg.
We just take it again. Try to lose the accent.
The rules to the club are simple. And the question for was done.
Les accents de James Franco, qui joue donc le rôle de Tommy Wiseau dans le film The Disaster Artist. Alors d'abord, Thierry Chaise, on va faire ce tour de table. Vous avez vu The Room, le film de Tommy Wiseau? Vous l'avez vu quand?
Je l'ai vu il y a 5 ou 6 ans, je crois. Alors je vais très peu aux États-Unis, mais à chaque fois que j'allais à New York, il y avait l'affiche de ce film. Film passé, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc au bout d'un moment, on rentre quand même dans la salle. Et c'est le genre de film où le spectacle est encore plus dans la salle, évidemment, que sur l'écran. Mais voilà, donc je l'ai découvert.
Plus oui, sa sortie calamiteuse, il y a des séances.
En fait, qui sort de façon Rocky Horror Picture Show, comme il peut en avoir à Paris, qui sont organisées par des fans absolus, qui donc lancent des choses sur les écrans, crient bon. California toutes les 3 minutes. Enfin, il y a vraiment des rituels très précis. Alors quand on débarque là, on essaie de se faire après ça. Mais oui, c'est devenu, et sans doute aussi fait par lui, organisé presque par lui, son auto-départ, un film phénomène pour ça, qui se joue régulièrement aux États-Unis.
The Room, Florence Colombani.
Non, je l'ai jamais vu et alors on découvre des extraits du véritable The Room à la toute fin.
Disaster Artist.
Et je dirais pas que ça m'a vraiment donné envie de le voir, mais j'ai trouvé que les extraits du film réel étaient bien meilleurs que leur reconstitution dans le sens plus bizarre, plus drôle, plus percutant que leur reconstitution dans le film.
Le premier degré est souvent plus fort que le deuxième. Lucille Comeau, vous avez vu The Room?
Non, je ne l'avais pas vu du tout et je ne l'ai pas vu, toujours pas. mais en effet, je trouve que même c'est un problème, mais on va en reparler, que le film ne donne pas du tout envie d'aller voir un petit peu plus.
Ouais, Boris Pinot, vous connaissez The Room, hein, vous l'aviez déjà vu par surprise. Je vous interroge parce que voilà, c'est comme ça, c'est à vous de parler.
Oui, je l'avais vu il y a quelques années en voyant The Disaster Artist, ça m'a quand même donné envie de le revoir.
Non, parce que c'était soirée surprise pour vous, m'avez raconté.
Oui, je m'y attendais pas, c'est un ami qui m'a forcé à regarder ça.
Bon. Donc The Room, film devenu mythique au fil des années, c'est pas si vieux, c'est 15 ans depuis sa sortie. Donc son acteur principal, j'ai oublié son nom tout d'un coup, sort ce livre qui raconte le tournage, les coulisses, la rencontre avec Tommy Wiseau. Et c'est à partir de ce matériau que James Franco signe ce film. Thierry Chaise.
Mais c'est comment écrire comment faire un documentaire sur tout ce qui est une fiction totale, puisque en fait on ne sait rien véritablement de ce Tommy Wiseau, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il vient. Il garde un mystère et le film va donc pas le révéler.
D'où les accents un peu étranges.
D'où les accents. Donc on ne sait pas de quel pays, de quelle région.
En quelle année aussi.
En quelle année. Rien. On ne sait pas comment il a financé ce film.
D'où vient sa fortune.
On est quand même sur 8 ou 9 millions de dollars avec des choses un peu étonnantes. Par exemple, le fait que lorsqu'on tourne un film, généralement, on loue le matériel pour le filmer. Lui, il veut tout acheter. Donc, ce qui fait que les coûts, évidemment, augmentent. Parce que, on peut être surpris quand on voit le film lui-même de savoir que ça coûtait aussi cher. Mais c'est vrai que si on achète tout au lieu de le louer, forcément, ça fait plus haut. Donc, il y a ce côté où, comment s'emparer d'une histoire qui n'a ni queue ni tête et avec entièrement de mystère et en faire un film. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose dans le jazz de Franco qui est quand même un amour de ce nanar-là, un amour de cette personnalité-là, qui a finalement, à sa manière aussi, foi dans le cinéma, foi en lui-même aussi, évidemment, et à son égo-trip. Mais quand même, il veut réaliser ce film-là, il veut faire un film, il veut le faire dont les, justement, s'il achète les choses, ça veut dire quelque chose aussi symbolique. Bon, c'est qu'il veut que ce soit son truc à lui. Donc, il y a ce goût que je trouve très fort. Alors, évidemment, Franco l'interprète. Franco, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les films. Il a retravaillé un film de Gus Van Sant, je crois, ou un film de De Palma. Donc, il aime ce matériau-là, lui aussi. Je pense qu'il a aussi un ego trip. Il s'est trouvé avec ce... Je suis pas surpris de le voir réaliser ça. Donc, moi, j'ai passé, là encore, un bon moment avec cette limite. C'est juste un moment. C'est-à-dire que je vois pas, par rapport au livre, ce que le film de Franco a pu apporter. À part, une fois encore, montrer, en tous les cas, un public français qui ne connaît pas The Room, l'histoire d'une aventure vraiment pas comme les autres, avec un fou. Et comment voilà, ce film est, qui est vraiment irregardable est devenu une sorte de phénomène de société culte. Donc voilà, beaucoup de, un vrai plaisir à voir le film, mais il me manque une quatrième dimension, je dirais, par rapport à ce que j'avais pu lire.
Lucille Como opine.
Oui, moi je pense que le problème, c'est que James Franco a voulu faire un film absolument et résolument comique sur un objet comique. C'est-à-dire que... Il aurait presque dû commencer par cette scène qui est la scène finale, qui est l'avant-première du film organisé par l'équipe du film, donc en l'occurrence Tommy Wiseau lui-même, où tout le monde se marre parce qu'en fait tout le monde est un peu désarmé par la qualité absolument terrible de ce film, et donc tout le monde finit par rire. Et en fait je trouve que Franco échoue à provoquer chez le spectateur autre chose que ce type de réaction. C'est vraiment, honnêtement, j'ai ri. Je n'ai pas passé un mauvais moment devant le film, j'ai vraiment beaucoup ri. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu facile, voire un peu flemmard de la démarche du cinéaste à ne faire que reproduire ce geste de moquerie sur un objet qui est culte de toute façon à la base pour ça. Et je dirais même que ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Je trouve qu'il y a même quelque chose peut-être plus que flemmard d'assez malhonnête dans la mesure où le film tient des promesses, fait des promesses au départ qu'il ne tient pas. Quand on voit Tommy Wiseau au départ dans le regard de son ami Greg, il fait une improvisation, on imagine à partir du tramway nommé Désir sur une scène, et le regard que Greg porte sur lui à ce moment-là, et que du coup le spectateur porte aussi, parce qu'on ne sait pas qui c'est un regard d'admiration devant une forme de marginalité.
Le type est cinglé, il ose,
c'est incroyable, c'est génial, personne ne fait ça. Et c'est intéressant ça du coup, ce point de vue-là sur ce personnage, parce que c'est un point de vue intéressant sur un personnage qui est compliqué. Et le film délaisse totalement cette piste-là. Il n'y a pas du tout d'affection pour ce personnage. Il y en a un tout petit peu dans des scènes qui sont extrêmement ratées, qui sont des scènes de duo avec Greg, le fameux Greg, qui sont extrêmement classiques, un peu larmoyantes sur le pacte, la trahison, où là, on tombe dans des effets de cinéma américain un peu basiques, avec de la musique larmoyante, etc. Je trouve que c'est dommage, parce que là, il y avait quelque chose à faire sur le personnage, sur la marginalité, sur Hollywood, sur ce que c'est que de vouloir faire un truc complètement dingue dans le Hollywood des années 2000. Et en fait, on ne voit pas ça. Pas du
Florence
tout.
Colombani, non, pas juste, d'accord
juste ou pour
d'accord.
appuyer ce que disait Lucille sur ces scènes ratées, il y a aussi le problème de Dave Franco, qui est le frère de James Franco, qui joue Greg et qui est vraiment un mauvais acteur. Enfin, je trouve qu'il plombe énormément son personnage.
C'est son rôle aussi.
Hein. Oui, voilà, en fait,
oui,
on ne
enfin,
sait pas. Parce
que... Je trouve qu'il y a beaucoup de surjeux et de jeux un peu de séries télé qui n'arrange pas déjà des scènes qui ne sont pas forcément écrites
pas
de façon très subtile.
Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu jouer ce garçon ailleurs que dans ce film, donc ouais. Je ne connais pas ses qualités de comédien, mais on peut se dire que c'est une vraie direction d'acteur que de le faire jouer comme ça.
En tout cas, le problème de fond du film, et en effet là où il y a quelque chose que je trouve assez déplaisant, c'est que faire un film sur quelqu'un qui a réalisé le nanar absolu, c'est un gage de respect envers cette personne. C'est un gage d'admiration pour quelque chose. Et là, on est obligé de convoquer le souvenir de l'autre film sur quelqu'un qui a fait des nanars, c'est Ed Wood de Tim Burton, qui devenait un film, je trouve, magnifique sur l'amour du cinéma et sur la capacité de créer et le sens qu'a le fait de créer, quel que soit le résultat. Et The Disaster Artist ne devient jamais ça. Parce que James Franco reste dans une position intermédiaire entre un petit peu d'admiration, puisqu'il a quand même réalisé tout un film autour de ça, donc on se dit qu'il doit y avoir cette admiration, mais aussi beaucoup de distance ironique, et je trouve qu'il est très perceptible dans son jeu. Et justement, ça m'a frappée à la fin, quand on voit le vrai Tommy Wiseau, à quel point dans le jeu de James Franco, il y a du second degré. Alors que quand on découvre ce vrai Tommy Wiseau, il est sans second degré. Évidemment, vous me direz, c'est facile, il est lui-même, donc bien sûr. Mais même dans le jeu de James Franco, il y a une distance ironique qui, moi, m'a gênée, que j'ai trouvée trouvée un peu supérieure et un peu malveillante.
Ah oui, c'est vraiment une histoire de perception. Je reviens vers vous, Lucille, parce que comment être autrement qu'au second degré quand on essaye de jouer aussi mal que joue Tommy Wiseau au premier degré? Enfin, c'est toute la complexité du film. Moi, j'ai vu quand même beaucoup d'amour. D'amour pour son personnage, d'amour pour le cinéma, parce qu'effectivement, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Ed Wood avait quand même un côté fétichiste, bon, qui est celui de Tim Burton, avec quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. Enfin, on ne va pas parler d'Ed Wood ce soir, mais enfin, je ne pense pas que ce soit le sommet de la filmographie de Tim Burton, parce qu'il était trop collé à son sujet. C'est un peu comme quand Martin Scorsese fait La dernière tentation du Christ. Il travaille tellement le sujet sans filtre que du coup, ça devient un peu compliqué. Mais James Franco, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Thierry Chess, c'est aussi le goût du travestissement. Et là, il y a pour lui quand même quelque chose de l'identification. Il y a toute cette série de photos. Moi, je me souviens d'une expo photo dans une galerie de Soho où il refaisait les stills de Cindy Sherman en reprenant exactement les cadres, les clichés, les costumes, etc. Lui, pour le coup, est un fétichiste assumé, je pense, James Franco. Et ce film-là, finalement, permet d'assouvir ce goût-là. Pas d'accord, Lucille Como?
Non, parce qu'en fait, James Franco, le problème, c'est qu'il essaye de nous faire croire qu'il peut faire des trucs un peu marginaux, que c'est un fou, qu'il se maquille, qu'il fait des personnages de marginaux. Sauf qu'en fait, il fait un cinéma qui est extrêmement dans les normes de l'establishment hollywoodien. Là, son film, c'est un film qui, si on regarde sa forme, enfin sa construction, est un film d'un classicisme et parfois d'un mièvre qui est quand même assez déconcertant.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il veut nous faire croire qu'il joue les marginaux? J'ai pas l'impression.
En fait, c'est sa filmographie. Enfin, il a un côté depuis Spring Breakers. Enfin, moi, ça, c'est quand même un rôle qui m'a marqué. Ce côté, on se grime, on fait des accents, on
se regarde
de jouer.
Non, mais alors, si vous aimez pas Spring Breakers, on va se fâcher.
Non, mais j'aime beaucoup ce film. En l'occurrence, non, c'est plutôt c'est cette espèce de second degré qui fait qu'on lui pardonne un petit peu tout, je trouve. Je crois pas que le second degré soit une position suffisamment intéressante pour justifier des formes de films qui sont par ailleurs extrêmement classiques et un petit peu ennuyeuses.
Mais quand je parle de fétichisme de James Franco, c'est justement pour dire qu'il est au premier degré, pour moi, pas du tout au second degré. Je pense qu'il y a
Du coup, ça manque un peu d'intelligence, je pense, par rapport au personnage.
Ça, c'est possible.
Et par rapport au film The Room.
Ça, c'est possible. Florence Colombani?
Non, il y a aussi quelque chose qui rentre dans la convention hollywoodienne de vouloir faire l'éloge d'un personnage anormal pour finalement trouver une façon de le faire rentrer dans la norme quand même. Parce que la fin, c'est les applaudissements. Le public, finalement, trouve une façon d'aimer son film, donc ça justifie toute l'aventure. Cette amitié qui est quand même très ambiguë, qui met parfois mal à l'aise entre l'acteur et le réalisateur, trouve une forme de résolution, pareil, avec des déclarations d'amour. Il y a quand même une façon de prendre quelque chose qui met mal à l'aise. Et il y a un moment que j'ai trouvé assez réussi, où Tommy Wiseau aborde un producteur hollywoodien dans un restaurant et se met à déclamer « To be or not to be » pour le convaincre qu'il faut l'engager parce qu'il est un acteur génial. Et c'est terrible, il est épouvantable. Le producteur lui dit « Écoutez-moi bien, vous n'y arriverez jamais. Il y a des gens qui peuvent y arriver, vous n'y arriverez jamais. » Bon, et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire cette aspiration artistique que des gens portent avec flamme et en même temps qui va se heurter à la réalité. Or là, toute cette démonstration pour nous dire mais si, il a réussi quelque chose, moi, elle ne me convainc pas.
Alors, j'ai pas l'impression qu'ils disent ça, mais Thierry Chess, je vais nous en parler, mais cette scène de la projection, de la première du film, moi, je l'ai trouvée assez riche, parce que les gens aiment sur un malentendu. Enfin, il y a quand même on ressent une profonde douleur de Tommy Wiseau devant. Les rires commencent à fuser, enfin cette gêne, et puis tout d'un coup, après la salle, voilà, les vannes sont ouvertes, tout le monde rit aux larmes. C'est quand même quelque chose de très douloureux pour lui que de dire mon film est réussi puisque tout le monde rit. Enfin, il met un masque à ce moment-là, Tommy Wiseau, et je pense qu'il y a quand même quelque chose d'une douleur que moi, alors c'est très bon public sur ce coup-là, j'ai ressenti, pas vous, Thierry Chess.
Si, j'ai ressenti ça. Moi, je suis totalement d'accord avec Lucille sur la question de la forme. Que je trouve en effet vraiment
sans grand intérêt.
Sans grand intérêt, voilà. Mais sur le fond, sur ce rapport notamment à la norme, je pense qu'il accompagne véritablement le personnage qui est en lui. Il fait pas un film décalé, Tommy Wiseau. Il fait le film de sa vie, le film dont il a rêvé. Il se positionne pas par rapport à un establishment hollywoodien ou non. Alors nous, notre regard,
il veut y être.
Il arrête pas de dire c'est un film américain.
Non, il veut y être.
Un film américain.
Non, mais
il veut y être.
Mais c'est pas James Franco qui le met dedans. C'est pas Franco qui fait une morale en disant à l'arrivée c'est quelqu'un qui voulait être en dehors, c'est quelqu'un qui veut toujours être en dedans. Donc c'est pas Franco qui déplace Tommy Wiseau, je trouve, et en ça le film est fidèle sur le fond. Et là, ça fadit en effet par sa forme. Mais sur le fond, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de trahison. Il ne fait pas son petit malin autour de ça. Il respecte, il suit cette, ce parcours atypique.
Bon, il manque un metteur en scène. Quand même un disaster artiste, ouais. Me semble-t-il.
Oui, il y a des scènes catastrophiques, notamment les scènes de tournage. Dès qu'il s'agit de nous montrer qu'il y a de la tension entre les personnages, les scènes d'engueulade, c'est archi monté. Il y a de la caméra à l'épaule pour bien nous faire comprendre qu'il y a un problème. Ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Moi, pour revenir à cette question du risque, je trouve ça compliqué. Un acteur qui veut interpréter quelqu'un qui prend des risques et qui ne fait que se regarder lui-même et donc s'auto, je sais pas comment dire, mais s'auto-regarder, s'auto-congratuler en tant qu'acteur, en mettant son frère en face de lui, qui est une forme de miroir. Enfin, Dave Franco, c'est vraiment la même tête que James Franco jeune. Quand on pense à la dernière prestation qu'on a vue de lui, qui est The Deuce, une série donc de Simmons, où il s'est mis en, alors là, littéralement en jumeaux, c'est-à-dire qu'il se regarde puisqu'il joue deux personnages, quand même, là, le James Franco, je sais pas où il en est dans sa tête.
Oui, dans The Deuce, il y a un scénariste, il y a un metteur en scène.
Oui, bien sûr.
Quand je dis que ça manque d'un metteur en scène, c'est que quelqu'un devrait regarder James Franco.
Ah, mais le problème, justement, c'est que le film, je pense James que c'est Franco très intéressant, James Franco comme phénomène, comme acteur qui se regarde en permanence au point de se créer des propres doubles. C'est passionnant comme sujet.
C'est le vrai acteur du 21e siècle.
Mais du coup, il faudrait
siècle.
Qu'il y ait un réalisateur devant lui, pas James Franco réalisateur. Ça fait tout match.
Avant de redonner la parole à Florence Colombani, Boris Pinault, quelques commentaires sur les réseaux?
Oui, un mot tout à fait raccord de Manon sur Twitter. Ce film n'a pas de réalisateur, seulement des acteurs. James Franco utilise la caméra pour contempler son imitation de Wizo et se répéter qu'il est plus cool que lui. Violette Villard sur Facebook parle de la puissance de transformation dérangeante de James Franco, film malaisé à définir, rémanence du Marguerite de Xavier Giannoli, une autobiographie de Franco en misfit, Mohican artiste dévasté, et enfin Vera Shane toujours sur Facebook, entre rage candide ou trans bouffonne et caricature Jaune d'Arc du mythe hollywoodien, Franco réussit un pastiche déréglé et déjanté de La La Land sardonique.
Oh, la référence à Marguerite. Il y a quelque chose, c'est en effet, Thierry Chaise.
Hein. J'avais pas pensé, mais c'est en effet...
Auditrices et auditeurs sont formidables, c'est ce que je vous dis. Florence, vous voulez dire un dernier mot sur l'artiste?
Non, dernier mot sur l'establishment hollywoodien, qui est quand même présent dans le film à travers de très nombreux caméos, puisque dans beaucoup de tout petits rôles, il y a des gens très connus, il y a Sharon Stone, il y a Seth Rogen, il y a toute une galerie de...
Bah, c'est son l'agent du frère de Franco, non,
j'ai oublié. J'ai pas du tout vu ça.
Ah, oui. Faut le revoir.
Oui, c'est Sharon Stone, elle a à peu près...
Ça dure 2 minutes.
1 minute 30 à l'écran, mais moi je suis toujours content de voir Sharon Stone, ce que vous voulez. Oui, vous avez cité d'autres?
Il y a Seth Rogen, le star du cinéma. Ma comique scripts, américain qui joue le script.
C'est un comparse de James Franco depuis bien longtemps, oui.
Et puis il y a toute une galerie de gens, d'acteurs de séries très connus au début qui nous parlent de The Room. Donc il y a quand même cette façon d'insérer le film dans l'establishment d'aujourd'hui.
Bon, mais James Franco est partout, on le sait. Enfin là, il s'est fait discret, semble-t-il.
Il avait eu le Golden Globe et à partir de là, des affaires sont ressorties et il a disparu.
Voilà, il a frappé. Bon. Là, nous, on parlait de cinéma et on parlait de Disaster Artist de James Franco qui est sorti également mercredi dernier.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute cinéma en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est La Nuit a dévoré le monde, Dominique Rochet. Alors, le synopsis est le suivant. Je le lis, je le livre. En se réveillant le matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son plein, Sam doit se rendre à l'évidence. Il est tout seul. Je fais 3 petits points, non? Allez, je fais 3 petits points.
T'as échappé à tout. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil. Et il arrive. Ça.
Y'a quelqu'un ? Hey !
Tu penses qu'il y a un remède ?
Thank you.
je dis tout seul avec trois petits points, entendre la bonne annonce, c'est pas le cas, mais j'ai bien envie de laisser les trois petits points parce que vous savez qu'à la dispute, on ne divulgâche pas trop les films, d'autant plus que je n'ai pas encore vu La nuit a dévoré le monde et que j'ai très envie de voir ce film pour le peu que j'en sais. Ai-je raison, ai-je tort ? Lucille Como.
Alors, on va devoir en dire un petit peu plus parce que
ouais, c'est vraiment compliqué. Bien sûr, il n'est pas tout seul.
Bah, c'est un film qu'on peut voir dans cette nouvelle propension du cinéma français qui s'empare de plus en plus du cinéma de genre, donc plutôt bienvenue. En l'occurrence, là, c'est le film de zombies, puisque quand ce personnage de Sam se réveille dans cet appartement dévasté, il y a du sang partout et quasi tout le monde, dans la rue du moins, a été transformé en zombie. Et il faut dire aussi que cet appartement dans lequel il est un appartement qui, pour nous spectateurs français, est très familier puisque c'est un appartement cossu d'un immeuble haussmannien, on imagine les beaux quartiers parisiens. Donc toute la question que se pose le film et qu'à mon avis il résout très bien, c'est comment faire cohabiter quelque chose de très familier qu'est ce décor français parisien avec le genre du film de zombies. Donc je disais, c'est un Paris très bourgeois. Le début commence comme un film qu'on connaît, un film un peu naturaliste sur la jeunesse française avec une grosse fête, des histoires d'amour qu'on devine complexes et contrariées, qui débordent dans les escaliers, c'est quelque chose de très connu. Et puis, très vite, bon, ça change tout, totalement, puisque dès le lendemain, tout le monde est transformé en zombies. Je trouve très convaincant la manière dont les zombies sont figurés. C'est des zombies très classiques, très très classiques, mais sauf que c'est des sortes de bobos parisiens transformés en zombies. Donc déjà, il y a un côté un peu comique. Donc ils ont la mâchoire de travers, ils se traînent un peu avec des mouvements compulsifs. Tout ça est très connu. L'originalité, en revanche, à mon avis, c'est que par rapport à, par exemple, I Am a Legend, qui est un film auquel on pense tout de suite, qui est le film... où Will Smith se trouve tout seul dans un New York désert post-apocalyptique à organiser sa vie avec le soir des sortes de zombies slash vampires qui circulent avec son chien. En effet, lui, il a un chien, il a de la chance. Donc on pense évidemment à ce film-là. Sauf que ce qui prend le pas, à mon avis, sur le film de zombies, et c'est très bienvenu, aussi peut-être dans l'économie qui est l'économie du film, c'est que le film se transforme vraiment en survival, donc en film de survie. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir ce personnage tout seul dans un appartement puis un immeuble, parce qu'il finit par investir en fait tout l'immeuble à différents niveaux. C'est très bien filmé la manière dont il circule entre les niveaux. Il finit donc par essayer de rationaliser concrètement, qu'est-ce que je fais, je suis tout seul, faut que je vive le plus longtemps possible, donc je me barricade pour faire en sorte que les zombies ne rentrent pas, j'essaye de comprendre comment ils fonctionnent en les regardant par la fenêtre, je prends tous les petits pois et le quinoa bio Monoprix, je rationalise les doses pour savoir combien de temps je vais tenir. C'est vraiment ça qui est, à mon avis, le plus intéressant dans le film.
Vous m'en dites pas trop, hein, Lucie.
Voilà,
hein.
Alors moi je veux juste dire une chose, c'est que l'acteur est passionnant, sauf que moi, au bout d'un quart d'heure, j'ai vu Emmanuel Macron et que du coup et du coup alors la vision du film change totalement.
Mais c'est pas son Emmanuel nom, c'est pas Emmanuel Macron qui joue le rôle principal.
C'est Emmanuel Macron danois.
Non mais il lui ressemble incroyablement.
C'est l'acteur de Joachim Trier de Oslo 31 août, mais c'est un sosie. Enfin c'est très très étonnant,
très impressionnant. Il s'appelle
Anders quelque chose, je ne sais plus.
Bon, bah, retrouvez vos notes. Florence Colombani, La nuit a dévoré le monde.
Alors, c'est un film très bien mis en scène, très brillant, très intelligent, avec un concept fort qui est cette rencontre du genre et du contexte français, que d'ailleurs le cinéaste détourne
un petit
peu.
Emmanuel Macron, si bien compris.
C'est ça. Et du bon marché. Détourne un petit peu en utilisant des acteurs qui parlent français mais qui sont d'origine étrangère, puisqu'il y a cet acteur danois qui par ailleurs est un très très bon acteur qui habite tout à fait l'écran, enfin qui est voilà, mis à part cette ressemblance. Et il y a Golshifteh Farahani, donc actrice iranienne qui vit en France depuis plusieurs années. Et c'est une autre façon intelligente de travailler ce décalage entre un genre typiquement étranger et la France. C'est un film donc très séduisant et en même temps moi qui m'a laissé totalement extérieure, donc je vais en venir à la formule d'exercice de style, mais que je trouve un peu injuste, parce qu'évidemment c'est un exercice de style. À partir du moment où on se confronte à un genre, on est toujours dans l'exercice de style, donc je ne veux pas reprocher ça au film. Simplement je trouve, enfin dans mon cas, je suis vraiment restée à distance, et en effet on regarde comment ce personnage s'organise pour survivre, et voilà. Et alors
bon, oui, vous avez retrouvé le nom, Lucille Como.
Oui, c'est Anders Danielsen-Lee.
Merci pour lui. Thierry Chaise.
Je partage...
La nuit a dévoré le monde.
Totalement ce point de vue-là. C'est très beau, très propre sur lui, très respectueux du genre. On voit toutes les intentions et c'est un très bon metteur en scène, ça c'est indéniable. C'est-à-dire sur la, en effet, la manière de passer d'un étage à l'autre, il y a, tout est là, mais il me manque la chair, il me manque quelque chose de viscéral en fait dans tout ça. On est, c'est, il y a un point de vue cérébral passionnant et on peut avoir des, le film cérébral peut tout à fait réussi, mais là, il me manque la deuxième partie, il me manque l'écho, qui fait qu'à un moment, oui, je vais m'ennuyer, surtout je vois que on est tellement respectueux du genre qu'on n'ose pas trop les corner, qu'on fait en effet un film français par ces décors-là, mais que sinon, moi je trouve qu'on est quand même un peu à la traîne. C'est un film qu'on a pu voir ailleurs. Alors comme y a, on n'a pas de moyens, on s'en tire plutôt très bien, on sait très bien réaliser, mais il y a des facilités. Moi, l'idée de reprendre une fois encore l'acteur de Léo Scarrax, Denis Lavon, pour un énième rôle, j'ai l'impression que je le vois tout le temps faire les mêmes rôles au cinéma, un peu de facilité, mais ça fait bien dans le décor. C'est aussi bien d'avoir comme ça ce, l'hommage à Léo Scarrax dans le film. Je trouve que voilà, tout est là, tout est parfaitement décoré. Le quinoa est très bien, voilà, tout est. Je trouve que c'est parfait, c'est nickel. On a presque envie de mettre même les patins pour rentrer, pour pas abîmer tellement le film. Et c'est ce qui me gêne et ce qui m'a fait tenir à l'extérieur à ce film.
Lucille Gaumont.
Oui, alors sur la forme, en soi, je suis pas d'accord, mais c'est pas forcément pour des bonnes raisons, parce que je pense qu'il y a même des incohérences dans le scénario qui font que le film n'est pas si chiadé entre guillemets que ce que vous dites. C'est-à-dire que par exemple, le départ est un petit peu compliqué dans la mesure où ce genre de film fantastique, ça repose quand même sur un pacte de croyance assez solide sur le fait qu'on peut croire qu'il y a des zombies dans un appartement haussmannien. Moi, j'ai été dérangée par le début parce que en gros, il s'endort, il se réveille, hop, c'est fait. Ça m'a un petit peu dérangée parce que je me suis dit mais c'est pas du tout crédible, il y a un problème, et du coup ça m'a un petit peu bloqué dans ma tête, de la même manière que tout nous est donné, il a un iPod, il fait de la musique avec son iPod, etc. Donc pourquoi il a pas de téléphone, comment ça se fait, on se pose quand même ce genre de questions qui sont un petit peu bêtes, mais qui ont trait à la nature du pacte qui est donné par le film. Donc du coup je dirais pas que c'est parfait de ce point de vue là, parce qu'à mon avis sur la forme il y a des problèmes. En revanche je comprends ce que vous dites sur le côté un petit peu artificiel, ça tient à mon avis beaucoup à l'image et à la photo. Et au choix des décors, c'est-à-dire que les apparts parisiens sont magnifiques, les peintures sont superbes, il y a un côté El Déco, vraiment, c'est assez, c'est assez flagrant, et que du coup, le film joue beaucoup de ça aussi, puisque c'est un film quasiment entièrement filmé à l'intérieur. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose, et je pense que c'est lié aux acteurs, je trouve que cet acteur est vraiment formidable, Denis Lavant. C'est vrai qu'on l'attend dans ce type de rôle. Il joue donc un zombie, il faut le dire, qui est coincé dans l'ascenseur.
Vous allez tout me dire, hein, vraiment.
Non, mais franchement, il n'y a pas vraiment d'enjeu de ce point de vue-là. Donc, du coup, c'est quand même intéressant. Et puis, je trouve que, par exemple, on ne va pas révéler la fin, mais je trouve que la fin, dans ce genre de film, c'est problématique. Comment on sort de ce genre de film ? Vraiment, moi, je me suis quand même posé la question tout au long du film. Un film qui se passe entièrement en intérieur, comment on s'en sort ? En l'occurrence, dans I Am a Legend, c'est quand même un peu gros. Là, moi, je trouve que la fin est très belle. Laisse planer des doutes sur tout ce qui s'est passé avant. Et je trouve que, de ce point de vue, le film est réussi.
Vous avez des commentaires, Boris Pino, sur ce film, La nuit a dévoré le monde ?
Oui, Thomas D. sur Twitter écrit sur un film très solide. La nuit a dévoré le monde évite les gros poncifs du genre. Très belle ambiance visuelle et sonore. Moins un film horrifique qu'un film sur la solitude. Et Jim Bourdier, toujours sur Twitter, c'est une vraie proposition de film de zombie qui joue intelligemment avec son petit budget, plein de trouvailles, une direction d'acteur zombie au top.
Bon, ça fait quelques bons arguments concernant La nuit a dévoré le monde. Je ne suis pas tout à fait sûr encore savoir si j'y vais ce week-end ou pas, je vois. Et puis, j'ai quelques avis. Je pense avoir beaucoup plus, mais on profite qu'il nous reste quelques minutes pour nous faire le point César et le point Oscar. On était vraiment obligés, c'est la première émission cinéma depuis les deux grandes cérémonies, avec notamment qu'on regarde les Césars pour la voix off de Thierry Chaise, hein, depuis des années.
Donc on les écoute, en fait.
Qui nous chuchote quand les stars montent sur la scène. En l'occurrence, c'était où cette année ? Pléiel ?
Non, c'était à Pléiel.
À Pléiel. Oui, on l'a repéré en 2012 au Festival de Cannes. C'est Thierry Chaise. Bon, voilà, c'est lui. Vous avez vécu comment ces Césars, Thierry ?
Au niveau suspense, on peut dire que là, on n'était pas très Hitchcockien. On peut dire que ceux qui devaient gagner ont gagné. L'exception du documentaire où peu de gens avaient parié sur I'm Not Your Negro.
On proposait de faire une grève et une émeute si I'm Not Your Negro n'avait pas le César du documentaire.
Oui, mais c'était pas le favori donné, était plutôt Visage Village.
Oh ben non, vous plaisantez.
Favori, il y a deux.
Ouais. Comme écoutez, favori. Il y a heureusement des gens qui regardent encore des films.
Et surtout, parce que c'était le moins vu de tous.
Ouais, mais Visage Village, c'est pas un film.
Mais ça a été le moins vu. Et où le film de Caravaca ou tout ça. Donc c'était la seule surprise. Pour le reste, au niveau notamment de l'acteur, en fait, la victoire de Swan Arlo sur Jean-Pierre Bacri, qui était aussi le favori, c'est vraiment une tendance depuis le milieu des années 90 où les personnes un peu installées ne gagnent jamais le César du meilleur acteur. Ou d'un seul coup, voilà. Jusqu'aux années 90, ne gagnaient que Annie Girardot, Huppert, Adjani, Deneuve. Et que c'est passé maintenant aux gens plus jeunes, comme Adèle Haenel, qui avait réussi à gagner tout ça. Donc c'est une cérémonie très classique, voilà.
Bon, la vérité, vous avez les résultats à l'avance ou pas, Thierry Chaise?
Hélas non, sinon ça serait bien simple.
Donc vous avez plein de fiches,
ça
en fait.
Bien, j'ai des fiches sur tout le monde.
Vous avez un tout petit endroit
je suis dans une toute petite...
Dans la cave ou comment ça se passe?
Au fond de la salle à gauche.
Ah d'accord.
Une petite, non, hélas, on n'a pas les résultats, bon, c'est terminé ça.
Ce serait pratique.
Ah ben, il y aurait moins de travail à faire, il y aurait 5 fois moins de travail, voire 7 quand c'est les
nominations. Oui, il y a beaucoup de nominations.
Beaucoup.
Laurence Colombani, regarde sur les Césars.
J'ai pas vraiment de regard sur les Césars. J'avais vu très peu de films. Je suis désolée.
C'est vrai.
Ouais.
Bon.
Pardon.
Vous savez, maintenant par minute, vous en avez entendu parler ou pas?
J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu par exemple.
Non, c'est vrai. Ah, c'est drôle.
Mais par contre, c'est vrai que I'm Not Your Negro, c'était un grand bonheur de le voir sacré. Je pense que c'est quand même
Je pensais pas qu'il y avait le moindre suspense là-dessus, mais j'ai suivi ça très loin, très très loin. On va dire Lucille Como.
Alors vraiment aucun regard puisque je n'ai regardé aucune des cérémonies et je n'ai pas vu 120 battements par minute non plus. Et là, par exemple, si vous me demandez quel était l'Oscar du meilleur film, je m'en souviens même pas.
Ah,
je m'en souviens.
Ah oui, Shape of Water, vous en souvenez, je pense.
Ah oui, bon, je vais pas redire ce que j'avais dit. J'étais toute seule à défendre ce pauvre film il y a quelques semaines.
Juste l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour votre ami Guillermo del Toro. Boris Pino, vous avez eu le courage de regarder la cérémonie en entier? Chaque année, ça se passe chez une de nos collègues de France Culture.
Oui, j'ai été convaincu par le discours de Jeanne Balibar. Hormis ça, la cérémonie
c'était la pire,
m'a pas non plus emporté.
C'était la pire de... Non, c'est pas Thierry Chaise qui va le dire, il paraît que c'était horrible. Là. Je ne l'ai pas vu, moi, cette année.
Ah bah, c'était vraiment le meilleur discours de la soirée. Avec celui d'Antoine Reinhardt aussi, de 120 battements par minute, qui a eu le César du meilleur espoir masculin, qui valait le coup aussi.
Mais la soirée était pénible, non?
La soirée était assez pénible. Elle a commencé par l'ouverture... où des Césars dansaient sur scène et c'était un peu particulier comme
d'accord.
spectacle.
Bon, vous avez regardé les Césars, les Oscars, Florence Colombani, ou pas?
Alors les Oscars, une tendance assez intéressante, je trouve, de Hollywood à se remettre en cause. Ça a été une année d'ébranlement aux États-Unis, terrible, avec l'affaire Weinstein, etc. Et tout à coup, avec les Oscars, hop, tout revient dans l'ordre. C'était assez frappant, notamment pour qui avait vu les Golden Globes, où au contraire, on sentait encore le bouillonnement de ce qui s'était passé. Et là, aux Oscars, on a senti que la vague est passée et les moutons noirs ont été exclus et tout le monde revient à l'autocélébration. J'ai trouvé ça assez glaçant quelque part. Et d'ailleurs, le sacre de Shape of Water de Guillermo del Toro est une façon aussi de saluer un cinéma rétro, un cinéma qui...
Tout le monde se taisait. C'était tellement mieux.
Voilà, et puis qui se célèbre lui-même. C'est aussi un regard vers le cinéma du passé. Et c'est une façon de vouloir... détourner les yeux de ce qui avait été célébré l'année d'avant avec Moonlight, qui était un cinéma à la fois moderne dans sa forme et aussi dans son propos, dans ses thèmes, hein, le cinéma des Noirs américains, une histoire d'homosexualité. Je trouve qu'il y a un contraste entre ces deux années qui est assez étonnant.
Thierry Chaise.
Oui, on pouvait... Les pronostics disaient que Guillermo del Toro c'était bien parti pour le réalisateur et que le film c'était plutôt Three Billboards qui pouvait gagner, il pouvait de la vengeance. Or, juste après avoir eu le Golden Globe, lui aussi s'est pris une campagne très contre, sur le côté, attention, il y a un flic raciste, ça fait l'apologie de tout ça, il manque de noir dans le film. Et j'ai l'impression aussi que celui qui gagne, c'est finalement celui qui n'a pas été éliminé.
Il coche les cases, Guillermo del Toro.
Celui qui n'a pas été éliminé.
Un handicapé, un homosexuel, une noire.
Parce que vraiment, sur Billboard, c'est
venu... Un russe gentil.
C'est venu le lendemain des Golden Globes. Donc, on sait que c'est très politique, évidemment, les Oscars. Il y a une campagne très forte. La campagne, c'est faire campagne pour son film, mais c'est aussi faire campagne contre les autres. Et donc, distiller ces infos-là, il en reste toujours quelque chose au moment où les gens... vote.
Bon, mais c'était vraiment l'année Lucille Como pour les Oscars avec Guillermo del Toro et puis les meilleurs costumes pour votre ami, le meilleur costume pour votre ami Paul Thomas Anderson et son magnifique fil fantôme. Ça a dû vous réjouir, Lucille.
On va pas remettre ça.
Non, clairement, on va pas remettre ça.
C'est pas l'énergie.
Mais moi, je me réjouis en tout cas de l'Oscar de Frances McDormand qui, malgré cette campagne, a eu avec Three Billboards qui méritait bien plus, mais en tout cas, au moins qu'elle soit saluée, elle, c'était une belle chose. Voilà, on a pu faire un petit tour rétrospectif Oscar César. nous allons conclure cette émission avec le jeu de la dispute. Et Camille André qui nous a rejoint, comme chaque soir, pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Camille.
Avec son film La caméra de Claire, Hong Sang-soo retrouve Isabelle Huppert. Dans quel autre film du réalisateur était-elle présente ? Et la réponse était « In another country ».
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Tintoret, naissance d'un génie, une exposition dont on parlera dans 10 jours, dans la dispute. C'est une exposition qu'on peut découvrir au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 1er juillet. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, Tintoret fut l'un des nombreux artistes à peindre Suzanne et les vieillards. Dans quel film la version de Frans van Meris le Vieux a-t-elle toute son importance ?
Alors, il y a les ordres en même temps. Vous ne voulez pas répéter la question parce que bon, il y a la technique qui est là juste derrière vous. On est à découvert, on est au bel air. La question, c'est...
Tintoret fut l'un des nombreux artistes à peindre Suzanne et les vieillards. Dans quel film la version de Frans van Meris le Vieux a-t-elle toute son importance ?
Ah, oui. Et quelle importance ! Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Lundi, dispute consacrée au spectacle vivant à 19h avec Marie-Josée Sirage, Fabienne Pascoe et Philippe Chevillet. Notre affiche Périclès, prince de Tyr de Shakespeare, mise en scène d'Eklan Donnellan, en ce moment au Théâtre des Gémeaux à Sceaux. The Prisoner, écrit et mise en scène par Peter Brook et Marie-Hélène Etienne, en ce moment à l'affiche du Théâtre des Bouffes du Nord. Et puis Elle de Jean Genet, mise en scène Alfredo Arias au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet.